petit matin, il ne restait plus sur les boulevards que des milliers de chaussures, d'objets, de débris divers qui témoignaient de la violence des affrontements. Le silence s'était établi. Enfin, une équipe de secours envoyée par la préfecture de police recherchait les blessés et les cadavres. On ne s'embarrassait pas des gestes inutiles, ni des problèmes de conscience. Les corps étaient entassés pêle-mêle, sans distinction. Et par ici, c'est le 15e de crever dans le coin. Pas très joli, il a pris une balle en pleine tête. Bon, vous venez m'aider ? Ils retournèrent le corps. Oh merde, c'est pas un bicot, on dirait un français. Le chef d'équipe était bien embarrassé par sa découverte. Il décida de se couvrir en prévenant son supérieur. Le lendemain, mercredi 18 octobre 1961, les journaux titraient sur la grève de la SNCF et de la RATP pour l'augmentation des salaires. Seul Paris Jour consacrait l'ensemble de sa une aux événements de la nuit précédente. Les Algériens maîtres de Paris pendant 3 heures. Vers midi, la préfecture communiqua son bilan et annonçait 3 morts, dont un Européen, 64 blessés et 11 538 arrestations. Chapitre 3. À la demande de sa mère, Bernard éteignit le poste de télévision. Le présentateur du journal de 13 heures se fondit en un point lumineux et disparut. « Tu peux te servir de la télécommande, maman. On a pris ce modèle exprès. Comme cela, tu n'as pas besoin de te lever. Il suffit d'appuyer sur les touches. » Muriel Thirault se contenta de remuer la tête. Elle continua de fixer le téléviseur qui lui renvoyait le reflet assombri de la pièce et de son visage. Elle ne quittait pratiquement jamais ce fauteuil dans lequel, 20 ans plus tôt, elle avait appris la mort de son mari. Seul l'enfant qui distendait son ventre lui avait interdit alors de se laisser mourir. Dès que Bernard vint au monde, elle s'en désintéressa et vécut en recluse dans les 3 pièces de la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Elle ne s'approchait jamais de la fenêtre pour ne pas apercevoir, 3 étages plus bas, les marches de l'escalier où un matin d'octobre 1961, on ramassa le corps de son mari. Bernard Thirault fut élevé par ses grands-parents. Adolescent, il se consacra tout naturellement à l'étude de l'histoire. Au cours d'une conférence sur les peurs de l'Occident, il avait rencontré Claudine Chenet. Elle commençait à cette époque une thèse dont le sujet, la zone de Paris en 1930, fut le prétexte à de multiples promenades. « Tu sais très bien qu'elle ne s'habitue pas à ces gadgets, Bernard. » Il est temps de partir. Si nous attendons 1 heure de plus, l'autoroute sera bouchée. Je ne supporte pas de rouler au pas pendant des kilomètres. Bernard s'approcha de sa mère et l'embrassa. Nous serons de retour dans 1 mois, au plus tard début septembre. J'ai laissé notre adresse et notre téléphone au Maroc, chez la concierge. S'il y a un problème, n'hésite pas à nous appeler. Enfin, pas avant 1 semaine. Nous devons nous arrêter 1 jour ou 2 à Toulouse, et ensuite il faut traverser l'Espagne. Claudine serra la main de sa future belle-mère. Ils sortirent de l'appartement sans que Muriel Thirault n'esquisse le moindre geste. Dans l'escalier, Claudine ne put s'empêcher de dire « Je ne m'y ferai jamais, j'ai l'impression de m'adresser à un fantôme ». Pour toute réponse, Bernard lui passa le bras autour du cou. La voiture, une Volkswagen au bleu délavé, était garée plus haut. Vers la rue Saint-Denis, Claudine s'installa au volant et traversa Paris vers la porte de Saint-Cloud. Elle se glissa dans le flot des vacanciers. Après le tunnel, elle ouvrit le toit et mit la radio. Quelques ralentissements se produisirent jusqu'à la sortie de Montlhéry, provoqués la plupart du temps par des caravaniers ou des poids lourds. Claudine conduisait à vive allure en occupant la voie de gauche. Ils firent une halte à Pons, la cité du biscuit, vers 7 heures, puis reprirent la route en direction de Bordeaux. Ils passèrent la nuit à l'hôtel de la presse, porte Dijon, non loin de la Garonne. Le lendemain, ils durent s'arrêter entre Damazan et Lavardac, sur la A61. À chaque coup de frein, la coccinelle plongeait sur la droite, vers le bas-côté. Bernard essaya de plaisanter. « C'est normal, les voitures allemandes, ça déporte toujours. » Il ne s'agissait que d'un réglage et ils arrivèrent en vue de Toulouse à l'heure du déjeuner qu'ils prirent chez Vanel, cassolette d'escargot au noix, civet de coq au vin de Cahors. Cela nous fera un souvenir et nous aidera à supporter la cuisine marocaine. « Pas d'impérialisme culinaire, Bernard. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je te promets d'agréables surprises à ce sujet. » « J'ai hâte d'y être. Je ne pense pas en avoir pour plus de 2 jours ici. Quelques dossiers à consulter cet après-midi au Capitole et demain toute la journée à la préfecture. Tu ne veux toujours pas me dire ce que tu cherches ? Il sortit une gitane du paquet, l'alluma avant de répondre, feignant l'ironie. « Non, je m'occupe d'histoires dangereuses. Une mystérieuse organisation s'agite dans l'ombre. Laisse-moi te protéger par l'ignorance. » Ils quittèrent le restaurant. Claudine monta dans la voiture et se dirigea vers la place Occitane, à 2 pas de l'église Saint-Jérôme. Elle entra dans l'hôtel. Bernard rejoignit la mairie à travers la vieille ville. Il accéda au Capitole par les jardins. Les terrasses des cafés étaient bondées. Il renonça à boire un rafraîchissement. Il pénétra dans l'hôtel de ville. Dans ce hall, une hôtesse lui indiqua la salle des archives. À 17h30, on dut le prévenir de la fermeture des portes. « Alors, cette enquête aux ramifications internationales ?» lui demanda Claudine alors qu'il prenait une douche. Je suis sur une piste. Cela se confirmera peut-être demain, à la préfecture. Par contre, j'ai appris une anecdote intéressante. Figure-toi qu'il y a 42 ans, c'est ici, à Toulouse, que le Conseil de guerre de la 17e région militaire a prononcé la déchéance et la condamnation à mort de certain Charles de Gaulle, le 7 juillet 1940. Envoie-le à Lucien Jeunesse pour le jeu des 1000 francs. C'est malin. Et toi, qu'as-tu fait ? Je t'ai attendu. Elle le poussa sur le lit en riant. Bernard Thiraud se réveilla très tôt. Il arriva à la préfecture bien avant le fonctionnaire le plus ponctuel. Il patienta au comptoir d'un café de la rue de Metz et sortit dès l'arrivée du concierge. Il était seul dans la bibliothèque administrative. De temps à autre, un employé passait, les bras chargés de cartons, de registres noirs ou bien alors de piles de revues. La salle restait ouverte en permanence. Il demanda la permission de téléphoner en entendant les cloches de la cathédrale toute proche qui sonnaient midi. Le réceptionniste du Mercure décrocha et appela la chambre 12. « Claudine, cette fois je suis extrêmement sérieux, je tiens le bon bout. Ne m'attends pas pour déjeuner. La salle de consultation ferme à 6h, je pense y travailler jusque-là. Je suis contente pour toi, mais ne tarde pas. » Ce furent les dernières paroles qu'ils échangèrent. À 18h10, Bernard Thiraud descendit les marches de la préfecture et remonta la rue de Metz en direction de la place de l'Esquirol. Un homme, assis dans une Renault 30 noire, quitta son volant. Il le prit en filiature. Bernard avait hâte de raconter sa découverte à Claudine. Il pressait le pas. Il emprunta la rue de Languedoc sur une centaine de mètres. Par la droite, il contourna l'église Saint-Jérôme. À l'animation des larges avenues commerçantes succédait le calme des rues bordées d'hôtels particuliers, souvent délabrés, et les hauts murs des jardins. Pratiquement plus de boutiques, si ce n'était des devantures remplies d'objets religieux et d'antiquités. Soudain, il n'y eut plus personne. Pas une voiture. Bernard sentit la présence de l'homme qui le suivait. Il se retourna, le vit à 2 mètres de lui qui fouillait dans sa poche et en sortait un pistolet. Bernard, intrigué, n'avait pas peur de ce vieil homme d'une 60aine d'années essoufflé. Il chercha autour de lui la raison qui le poussait à exhiber une arme. Avant qu'il ne comprenne, la première balle se ficha dans son épaule et le fit chanceler. Le tireur se rapprocha encore à le toucher. Il sentait son haleine. Bernard ne trouvait pas la force de lutter. La seconde balle lui traversa le cou. Il s'effondra tandis que son assassin lui vidait les 6 dernières cartouches du chargeur dans le dos. L'homme s'enfuit dans le dédale des petites rues de la vieille ville. Les passants, alertés par les coups de feu, ne trouvèrent que le cadavre de Bernard Thiraud allongé sur le trottoir. Après 6 mois passés en Lozère, le commissariat de Margevol, à la suite des remous provoqués par l'affaire Verbel, j'avais obtenu une mutation à Toulouse dans un poste de quartier rue Carnot. D'habitude, je faisais tourner la boutique en équipe avec le commissaire Matabio, mais celui-ci, prioritaire pour le choix des dates de vacances, coulait des jours paisibles sur une plage corse. C'est ce moment précis que les employés des pompes funèbres mirent à profit pour engager l'épreuve de force avec leur employeur, une grève de croque-morts en pleine vague de chaleur. Les incidents étaient inévitables et je me retrouvais pris entre 2 feux. D'un côté les familles éplorées, de l'autre des grévistes décidés. La mairie de Toulouse ne se mouillait pas et jouait la carte du pourrissement. Au Capitole, on espérait bien recevoir l'appui de l'opinion publique. On se fichait de voir la police dans le rôle du tampon. Un matin de juillet, des bagarres opposant parents de défunts et fossoyeurs éclatèrent au cimetière de Rapa, près des pièces mortuaires où plusieurs dizaines de cercueils attendaient en ordre de trouver l'abri d'une fosse. Je disposais mes hommes devant les portes des chambres réfrigérées du funérarium où les employés, dépassés par le nombre et la vigueur hystérique de leurs assaillants endeuillés, s'étaient réfugiés. À 6h30, nous étions toujours au milieu des tombes. Un gréviste me tapa sur l'épaule. Je vais essayer de leur parler, d'expliquer les raisons de notre action, inspecteur, si vous parvenez à les calmer. Leur mort ne risque rien, nous assurons le service minimum. Le gars semblait croire à son discours, habitué à véhiculer les cadavres. Il ne comprenait pas qu'en face de lui, les manifestants, tout éplorés qu'ils soient, n'en étaient pas moins vivants. Restez tranquille, et si vous avez la clé de ce bâtiment, bouclez à double tour. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Je peux tenter de les raisonner. Il n'avait jamais entendu une phrase plus stupéfiante. Un flic qui se fait notre porte-parole, vous plaisantez? Ce n'est pas mon genre, mais je ne pense pas qu'un cimetière soit l'endroit idéal pour les règlements de compte. Ce n'est pas eux et encore moins la police qui arrangeront vos affaires. Alors ça ne sert à rien de continuer ce cinéma. Nous réclamons seulement une prime d'insalubrité, comme les égoutiers. Les vieux avant, lorsqu'ils exhumaient, pas de problème. Dans la boîte, ils trouvaient 10 kilos d'os en poudre. Aujourd'hui, on sort des Maccabées des années 60, l'âge d'or du plastique. Je ne vous fais pas de dessin, mais les os, je vous jure, on ne les voit plus souvent. Des trucs comme ça, c'est pas bon pour le carafon. Près de la moitié des gars embauchés se tirent au bout de 2-3 jours. Ils préfèrent crever de faim que gagner 5 000 francs dans ces conditions. 300 balles de prime, c'est pas le bout du monde. Un agent en tenue interrompit notre conversation. Inspecteur Cadin, le brigadier Lardenne vous demande à la voiture radio. Il a reçu un appel du commissariat au sujet d'un meurtre dans le quartier Saint-Jérôme. Le fossoyeur était sincèrement consterné. Une famille de plus sur les bras. Je traversais le cimetière, la voiture était garée près de la porte du carré des indigents, un espace envahi par les ronces, planté de 6 ou 7 croix de fer chaviré. Sur un monticule de terre fraîchement remué, un vase de porcelaine blanche et quelques fleurs. Je poussais le battant. Le brigadier Lardenne, affalé sur le siège avant gauche de la Renault 16, était occupé à percer le secret des... 43-252-003-274, combinaison possible de son Rubicube. Alors, vous y arrivez ? Il se redressa et fourra le jeu dans sa poche. Une face et demie, inspecteur, et je bloque. Mon fils réussit les yeux fermés. Ils font des concours dans sa classe, en 6e. Très intéressant. Et à part cela, il devint aussi rouge que la surface complète du cube. Oui, enfin non, des passants ont découvert le corps d'un jeune gars, tué à coups de revolver ou de pistolet. L'équipe de Bourassol est sur place. C'est à 2 pas de la rue du Languedoc. Prenez le volant, on y va. Branchez la sirène, sinon avec tous ces vacanciers, nous n'y sommes pas avant la tombée de la nuit. Le brigadier chef Bourassol connaissait son métier. Les différents services impliqués lors d'une affaire criminelle étaient déjà en pleine action. Inspecteur Cadin, je suis heureux de vous voir. J'ai laissé le corps dans la position initiale. Rien n'a été touché pendant votre absence. Très bien, Bourassol. Vos premières constatations ? C'est minime. Pas de témoins oculaires. Une dizaine d'habitants ont entendu les détonations. L'un d'eux a vu une silhouette qui s'éloignait vers la rue de Metz. Voilà. Enfin, on continue de ratisser. Il a reçu près de 10 balles dans le dos. À mon avis, du 9 mm parabellum. J'ai ses papiers. Sûrement un touriste de passage. Pour appuyer son affirmation, il me tendit un passeport français et un portefeuille en cuir marron. Les pièces d'identité étaient établies au nom de Bernard Thirault, étudiant, né le 20 décembre 1961 à Paris, domicile domicilié au 5 rue de la rue Notre-Dame de Bonneville, dans le 2e arrondissement. Une carte d'étudiant délivrée par la faculté de Jussieu et diverses photos d'une même jeune femme étaient glissées dans les pochettes transparentes du portefeuille. Le soufflet contenait 8000 francs en travelers check et une note de chez Vanel datée de la veille, pour deux couverts. Au moins, il n'aura pas regretté son dernier repas. 430 francs à deux. Bourassol recherchait donc la personne qui tenait l'autre fourchette et passait un coup de fil au service des égouts. Dites-leur de vérifier les bouches d'évacuation dans un rayon de 150 mètres. On ne sait jamais. Le tueur s'est peut-être débarrassé de son arme dans le coin. Inspecteur, ce n'est pas si facile. Il refuse à chaque fois de nous aider aux égouts. Il se croit au-dessus des lois, cela. En plus, il touche une prime. Ce n'est pas comme les fossoyeurs. Vous dites, inspecteur Cadin ? Je me comprends. Laissez pour les égoutiers, je m'en charge. Le lendemain matin, à 9h, le directeur des services techniques de la ville pénétra dans mon bureau et me rendit un sac plastique contenant une arme. « Voilà le résultat, inspecteur. Vous n'avez qu'à demander. Un employé communal l'a repêché dans un collecteur de la Croix-Baragnon. » Le courant n'est pas puissant à cet endroit. On peut donc supposer que le lieu de la découverte correspond grosso modo à l'endroit choisi par le meurtrier pour jeter son pistolet. C'est un pistolet ? Je n'ai jamais su la différence entre revolver et pistolet. Élémentaire, ça fonctionne par couple. Pistolet chargeur et revolver barillé. Votre gars n'y a pas touché ? On leur avait bien expliqué comment procéder. Je saisis l'arme par le canon, sans la sortir de sa protection, et l'examinai. Nous avons affaire à un professionnel. Mon interlocuteur ne dissimula pas son étonnement. Il devait se nourrir de Conan Doyle et de Richard Freeman. Comment voyez-vous ça ? Je le lui expliquai au risque de briser l'admiration naissante dont j'étais l'objet. Il s'agit d'un Llama spécial, modèle 11. Un pistolet aussi répandu que notre unique aile. À la limite, on s'en fout qu'il y en ait 50 au mètre carré. Chaque arme a ses caractéristiques et les laboratoires sont équipés pour les faire parler. Ce qui pose problème avec les Llama spécial, c'est qu'ils sont fabriqués par Gabilondo à Victoria. Si en plus vous savez que cette usine est située dans la province de Guipuscoa, en plein Pays Basque, vous commencez à vous faire une idée, pas la moindre. En 1972, un commando de l'État a attaqué un camion rempli de ce type d'armes. 300 pistolets ont disparu. On ne connaît pas les filières, mais le milieu français utilise de temps à autre des flingues qui proviennent de ce braquage. Systématiquement, nous mettons la main sur l'arme munie de ses numéros de référence. On vérifie sur la liste établie par la Guardia Civile et ça correspond. Pas besoin d'aller plus loin. On tombe en ligne directe sur l'usine de Victoria. Le labo peut passer directement à la recherche des empreintes, mais on ne se procure pas un pistolet vierge pour y coller ses doigts. Merci tout de même, monsieur le directeur technique. Ça nous permet d'avancer. Il me tendit la main avec respect et s'inclina légèrement. Sur le palier, je ne résistais pas à l'envie de le déconcerter un peu plus. Merci encore et à charge de revanche. Si un crime se présente dans vos services ou chez vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. Le brigadier Bourassol lui succéda dans le bureau. Je ne l'avais jamais vu perdre ni son calme ni son sourire. Il n'en était pas de même, paraît-il, quand il travaillait au commissariat du Mirail, la ville nouvelle construite en périphérie de Toulouse. On lui reprochait le tabassage en règle de deux jeunes délinquants au Narval, le café du centre commercial. On ne s'est pas foulé pour débusquer la môme. En mangeant chez Vanel avant-hier, ils ont demandé l'adresse d'un hôtel au patron. Il les a envoyés au Mercure Saint-Georges, à 100 mètres du lieu du crime. On ne lui a rien dit, elle vous attend. Ou alors on l'amène ici. Non, en route. Dites à l'Ardenne de s'occuper de la boutique et laissez-lui nos coordonnées. La direction de l'hôtel se serait dispensée de notre visite. On me demanda de garer la voiture blanche et noire au fond du parking. On n'hésita pas à mettre un salon particulier à notre disposition par souci de discrétion. Claudine Chenet n'avait manifestement pas assez dormi. Deux cernes noires soulignaient ses yeux. Elle se leva en nous voyant. « Qu'est-il arrivé à Bernard? Je veux savoir. » J'aspirai une longue bouffée d'air. « Il est mort. Assassiné. Ça s'est produit hier soir, peu après 18 h, non loin de l'hôtel. » Une lassitude immense s'imprima sur ses traits. Je dus tendre l'oreille pour comprendre ce qu'elle murmurait. « Mais pourquoi? Pourquoi ?»« Je suis là pour le découvrir, mademoiselle. À quelle heure vous a-t-il quitté ?»« Très tôt le matin. Je dormais encore. Avant 8 h, probablement. Vérifiez à la réception. Il faisait des recherches à la préfecture et il m'a téléphoné à midi pour m'avertir qu'il ne rentrerait pas déjeuner. » Quel type de recherche? Il ne voulait pas me le dire. Il se contentait de plaisanter en me faisant croire qu'il traquait une organisation internationale. Il est malheureusement possible que ce ne soit pas une plaisanterie. Avez-vous rencontré des connaissances à Toulouse depuis avant-hier? Non, inspecteur, personne. Nous nous rendions au Maroc pour les vacances. Nous avons fait un détour à Toulouse, mais c'est la première fois que je mets les pieds ici. Bernard également. La première et la dernière. Vous êtes sorti au cours de l'après-midi ou de la soirée d'hier? Elle esquissa un sourire désabusé. Je me doutais que vous en arriveriez là. La réponse est non. J'ai déjeuné au restaurant de l'hôtel. Voyez les serveurs. Crudité, tourne d'eau, fraises à la crème. Ensuite j'ai lu sur le balcon au soleil. Et vous ne vous êtes pas inquiété de sa disparition? Votre ami doit rentrer à 6 h du soir et le lendemain matin, à 8 h 30, mes hommes vous trouvent occupés à manger des croissants, la mine à peine défaite. J'ai toutes les raisons de m'étonner, mademoiselle Chenet. Il s'agit d'un crime. Elle porta les mains à son front et éclata en sanglots. Ça lui arrivait parfois de ne pas revenir de la nuit à Paris. Vous viviez ensemble? Oui, nous vivions, c'est le terme qui convient. Depuis 6 mois, Bernard habita chez moi. Certains soirs de déprime, il disparaissait et rentrait au petit matin sans explication. Sa mère en est responsable, enfin je veux dire, de ce manque de confiance en lui. Lorsqu'il est né, son père venait de mourir dans des circonstances dramatiques. Je n'en sais pas plus, sinon que cette disparition a sérieusement affecté la mère de Bernard. Elle ne sort jamais de son appartement et j'ai dû l'entendre prononcer 3 phrases au total au cours d'une dizaine de visites. Très bien, nous allons amener les affaires personnelles de votre ami. Le brigadier Bourassol vous signera un reçu. Bien sûr, vous devez demeurer à Toulouse pendant quelques jours pour les besoins de l'enquête. Le plus pénible reste à accomplir. Il faut m'accompagner à la morgue pour reconnaître le corps avant l'autopsie.